Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Pas de consensus au Parlement libanais, la Chambre n'a pas élu un nouveau président de la République. Le mandat de Michel Aoun s'achèvera le 31 octobre prochain. C'était un peu l'abbé Pierre au féminin. Isha Chena avait cette envergure, des mots du producteur de spectacle Alain Piniel. Il a connu cette icône de la lutte pour les droits des femmes au Maroc, décédé dimanche dernier. Alain Piniel sera l'un de nos invités. Les parents de Mahsa Amini ont déposé plainte contre les auteurs de l'arrestation de leur fille, cette Iranienne de 22 ans retrouvée morte 3 jours après son arrestation par la police des mœurs. Nous y reviendrons avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran, invité de Si on en parlait à 19h et 23h. Les talibans ont dispersé avec des tirs en l'air un rassemblement de femmes afghanes venues soutenir les manifestantes iraniennes, rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Kaboul. La France condamne les frappes massives revendiquées par l'Iran dans la région autonome du Kurdistan. Paris dénonce une violation flagrante de la souveraineté irakienne et du droit international. L'invité de Pluriel était Julie Garnier, conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de la France insoumise. Elle a notamment évoqué la grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique, extrait de votre journal. Les députés libanais ne sont pas parvenus à élire le président de la République, appelé à succéder à Michel Aoun. Son mandat s'achèvera le 31 octobre prochain. La majorité des suffrages exprimés étaient blancs. Le président du Parlement indique qu'il organisera un nouveau vote seulement lorsqu'un candidat de consensus aura émergé. De nombreux hommages au Maroc et au-delà des frontières marocaines après la mort dimanche dernier d'une icône de la lutte pour les droits des femmes. Aïcha Chena était âgée de 81 ans. Elle avait fondé en 1985, l'association Solidarité Féminine pour la défense des droits des femmes et des enfants abandonnés. Le producteur de spectacle Alain Piniel l'a bien connu. Entretien avec Alain Piniel.
J'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, et en particulier en Belgique, à Bruxelles, où elle était venue faire une conférence au musée juif de Bruxelles, devant une assistance assez composite et mélangée, et à la fois admirative et médusée d'entendre cette femme et son énergie parler des femmes, parler de la tolérance, de l'ouverture, du dialogue. Et puis je l'ai rencontrée une autre fois, beaucoup plus longuement, à Darla, donc au Maroc, dans le sud du Maroc, lors d'un forum, d'un rallye organisé pour des femmes qui s'appelle la Sahraouia, qui est un magnifique événement organisé dans le sud du Maroc tous les ans pour des associations de femmes qui s'adressent des défis sportifs. Et Aïcha était là en tant que marraine et que figure emblématique de cette rencontre. Écoutez, c'était une femme incroyablement modeste, rayonnante, qui avait des convictions, qui était très populaire, très très populaire. J'ai pu le constater dans les rues de Bruxelles parce que la communauté marocaine y est assez représentée et les gens s'arrêtaient, l'embrassaient. Elle était un peu gênée, elle était toujours discrète. Et puis, je l'ai vu donc aussi au Maroc, à l'écoute des unes et des autres. Et elle m'avait raconté un souvenir qu'elle avait un jour. Elle vivait dans une petite maison, donc à Rabat, et un jour on l'appelle et on lui dit, écoutez, le roi va vous appeler. Donc elle avait été un peu incrédule, elle n'y croyait pas trop. Et puis une heure après, on lui a dit, surtout, on va l'avait rappelé, est-ce que vous êtes bien là, le roi vous appelait. Alors elle avait un peu rigolé en disant, bah, écoutez, j'attends qu'il m'appelle, hein, vous en faites pas, je fais ma vaisselle, mais je décrocherai. Et en fait, c'était vraiment le roi Mohamed VI qui l'avait appelé pour l'encourager et lui dire qu'il veillait sur elle. D'ailleurs, suite à ce coup de fil, il lui a envoyé un don très conséquent pour ses œuvres. Donc elle m'a dit qu'elle avait vraiment constaté que c'était le roi en reconnaissant sa voix au téléphone et qu'elle s'était excusée qu'il avait beaucoup ri parce qu'au départ, elle n'avait pas cru à ce coup de téléphone royal. Voilà, ça c'était Aïcha.
Sa mission qui était soutenue
par le roi personnellement. Les autorités, c'était une autre affaire. Ça dépendait de quelles autorités. Elle me disait que souvent, dans les conférences, on se pressait avec elle pour faire des photos, mais qu'après, elle avait du mal à obtenir gain de cause pour ses demandes. Elle n'était pas naïve, hein. Elle était très réaliste avec sa chaîne. Elle avait les pieds sur terre, ouais.
Et c'était une mission courageuse, c'est ce que vous dites à travers cela.
Absolument. Elle avait d'ailleurs édité deux livres assez poignant. L'un qui s'appelait Miseria, qui racontait un peu son parcours, et l'autre qui s'appelait à haute voix, où elle donnait la parole à différentes femmes. Elle m'avait offert ces livres que j'ai sous les yeux en vous parlant, et dont je suis effectivement, que je tiens beaucoup, qu'elle m'a dédicacé. Oui. C'est une grande voix qui s'est éteinte. À Echachena, je lui disais parfois, tu es un peu l'abbé Pierre au féminin au Maroc. Alors elle souriait, elle me dit, oh, je n'ai pas la sainteté de l'abbé Pierre, mais moi je pense qu'elle était quelqu'un de cette envergure, qui avait cette envergure-là, qui avait la bonté au cœur et qui était pleine de générosité et d'humanité. D'ailleurs, elle avait été, ce qui est très rare, en tant que Marocaine, elle avait été décorée de la Légion d'honneur. Puis il y a quelques années, elle avait rencontré le pape François, le pape l'avait reçu, parce que c'était vraiment quelqu'un de formidable et de désintéressé, qui aimait vraiment les gens, gratuitement, sans attendre de retour.
Vous évoquez l'abbé Pierre, elle aussi était pionnière dans son combat. Elle avait fondé en 1985 l'association Solidarité Féminine pour la Défense des Droits des Femmes et des Enfants Abandonnés.
Bien sûr, elle était très mal vue par une certaine frange très traditionnaliste, pour ne pas dire intégriste, de la société qui ne comprenait pas du tout ses démarches, hein, et qui était pour une morale rigoureuse et immense. L'éphémère, c'est une honte, etc., c'est un péché. Alors elle s'est levée complètement contre ça. Elle avait des convictions, elle les disait, et puis elle avait aussi toute une vision à la fois humaniste, et elle n'avait pas sa foi dans sa poche. Hein. Elle était très, très, très croyante, très pratiquante, mais elle n'aime pas les pharisiens, vous voyez ce que je veux dire. Donc il ne fallait pas lui raconter d'histoire à Echachena, il fallait être vrai. Et puis il fallait que les actions suivent les discours.
Avec, on l'entend à travers vos mots, une profonde honnêteté intellectuelle.
Absolument, absolument. Et une très grande rigueur.
D'où cette émotion au Maroc, mais également au-delà des frontières marocaines.
Oh oui, je pense que c'est bien au-delà des frontières marocaines, hein, parce qu'elle avait une aura qui dépassait largement le Maroc. C'est quelqu'un qui avait été proposé d'ailleurs plusieurs fois pour le Nobel, hein, pour le Nobel de la paix, pour son action en faveur des femmes, mais pas seulement, hein, d'ouverture, de dialogue et d'apaisement de la société.
Le producteur de spectacle Alain Piniel, qui rendait hommage à Echachena, décédé dimanche dernier à l'âge de 81 ans. Les parents de Mahsa Amini ont déposé plainte contre les auteurs de l'arrestation de leur fille à Téhéran. Cette Iranienne de 22 ans retrouvée morte 3 jours après son arrestation par la police des mœurs. Une arrestation pour non-respect du code vestimentaire strict. Son décès a provoqué une immense vague de colère à travers l'Iran. Nous y reviendrons à 19h et 23h dans l'émission Et si on en parlait, présenté par Alexis Bachelet. Parmi ses invités, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran.
C'est une évolution des mentalités, donc c'est une tendance lourde qui concerne l'ensemble des classes sociales, l'ensemble de l'Iran. C'est pas que les grandes villes, contrairement à ce qu'on entend, et les femmes, également les hommes, etc. Donc c'est vraiment une évolution des mentalités en Iran qui demande une société plus moderne, basée sur un état de droit et la démocratie et la défense des droits individuels. Donc ça, c'est un état de fait. Et vous avez raison. Donc, si vous voulez, c'est toujours compliqué. C'est pas parce qu'il y a une modernisation des mentalités dans un pays que ça se traduit forcément sur le plan politique. Ça, on sait bien que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'en 2009, c'est pour ça que je rapprocherai ce qui se passe actuellement de 2009, parce que c'était une contestation essentiellement politique où les gens sont sortis dans la rue en disant « Où est mon vote ? Où est passé mon vote ?» Mm-hmm. Ils contestaient les résultats qui aboutissaient à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Et là, je pense que contrairement aux manifestations 2017 ou 2019, qui étaient plus le fait de revendications d'ordre économique, là, on a vraiment une revendication politique. C'est ça qui distingue cette crise des crises plus récentes. Et c'est, comme vous l'avez dit, hein, c'est une contestation qui prend parmi les symboles, c'est les jeunes femmes et même l'ensemble de la société iranienne demandent la fin du voile obligatoire, la disparition de la police des mœurs, qui ont été des demandes qui ont été relayées par les partis réformateurs qui n'existent plus vraiment sur le plan politique en Iran. Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on a une société iranienne qui n'a plus vraiment de relais, hein, cette modernisation des mentalités, ça c'est un des problèmes. Et puis également, c'est intéressant, si vous voulez, le slogan qu'on entend, « Zan Zendegi Azadi », donc la femme, la vie et la liberté, c'est une contestation quelque part des slogans qu'on entendait au moment de la Révolution. Ils reprennent ce type de slogan. Donc là, effectivement, il y a une contestation fondamentalement d'ordre politique et qui s'attaque directement au régime, parce que on entend nous on veut pas de la République islamique dans les slogans. Donc là, c'est effectivement une contestation fondamentalement d'ordre politique.
Alors, est-ce que ça veut dire que jamais la coupure entre le régime des Mollahs, la République islamique d'Iran et finalement la société, vous l'avez dit, hein, c'est pas seulement les jeunes, c'est pas seulement les grandes villes, hein, c'est un mouvement qui semble-t-il traverse très largement la société iranienne. Est-ce que ça veut dire au fond qu'on atteint, on n'est peut-être pas très loin d'un point de rupture et quelle peut être finalement l'issue de cette crise ? Puisqu'il semblerait que pour l'instant, le régime ait choisi plutôt le statu quo, la répression et de continuer comme avant.
Alors, l'Iran, c'est plus compliqué que ce qu'on entend malheureusement trop souvent, une gentille société et des méchants mollahs. On a une société qui se modernise dans l'ensemble de ses composantes, et il faut reconnaître quand même, hein, par rapport à d'autres pays dans la région, quand il y a eu je dis pas que tout est parfait sur le plan des élections en Iran, mais Ratami qui a été élu donc en 97 et en 2001, quand Rouhani est élu en 2013, je dis pas que tout était parfait, mais il y avait des taux de participation très élevés. Donc il y avait quand même l'espoir, je pense qu'il y avait l'espoir, notamment en 2013, que, Rouhani puisse améliorer les choses, notamment sur le plan politique. Sur le plan économique, nécessairement, mais sur le plan politique. Et il faut bien reconnaître que ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi les réformateurs n'existent plus, les modérés n'existent plus actuellement en Iran, c'est en grande partie à cause des sanctions américaines.
Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. Il est l'un des invités de « Et si on en parlait ?», présenté par Alexis Bachelet à 19h et 23h. Les talibans ont dispersé avec des tirs en l'air un rassemblement de femmes afghanes venues soutenir les manifestantes iraniennes. Rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Kaboul. Quelques 25 femmes ont manifesté pendant une quinzaine de minutes sur la route en face de la représentation diplomatique. Les talibans ont ordonné à des journalistes d'effacer les vidéos et les photos de la manifestation. La France condamne les frappes massives revendiquées par l'Iran dans la région autonome du Kurdistan. Paris dénonce une violation flagrante de la souveraineté irakienne et du droit international. Au moins 13 personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées. La France appelle au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de l'Irak et de la stabilité et de la sécurité de la région autonome du Kurdistan en son sein. L'invité de Pluriel était Julie Garnier, conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de la France insoumise. Elle a notamment évoqué la grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par LFI le 16 octobre prochain. Julie Garnier.
C'est un débat en fait qui ne doit pas que se tenir dans l'hémicycle, mais qui se tient partout. Et déjà, je pense que vous-même, dans vos discussions avec votre famille, vos collègues, vos amis, vos proches, eh bien, vous parlez tout simplement que quand vous allez faire les courses, eh bien, le prix de la note a flambé, que quand vous recevez votre facture, ce n'est plus du tout la même chose pour payer, que quand vous faites le plein, eh bien, ça augmente aussi. Mais par contre, que quand vous recevez votre fiche de salaire, eh bien là, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, c'est un débat qui appartient à tout le monde et c'est le débat de tous les jours. On en parle déjà. Et donc, le fait qu'on ne cantonne pas ça à uniquement l'hémicycle, eh bien, c'est normal finalement. C'est faire en sorte que toutes ces discussions qu'on a tous dans nos quotidiens, eh bien, on puisse dire à un moment, ça suffit. Ça suffit. Parce que la limite, elle se place là où on va la mettre. Et il faut que ça s'arrête, qu'on place une limite dans les super profits. Parce que pendant que c'est la crise pour certains, eh bien ce n'est pas la crise pour d'autres. Et encore, faudrait peut-être le rappeler que nous avons en France des grandes entreprises qui font des profits comme jamais, qui battent des records. Et ces entreprises-là, elles, ne sont jamais mises à contribution. Est-ce que je peux au moins donner un exemple pour vraiment qu'on sente de quoi je parle ? Vous voyez, vous parliez du prix de l'énergie. Eh bien, Total Energy a fait, au premier semestre de cette année, plus de 17 milliards de profits. Vous vous rendez compte ? 17 milliards. Il y aurait de quoi subventionner énormément d'hôpitaux, de services publics qui sont à l'abandon. Eh bien, pourtant, Total, en 2019 et en 2020, n'a pas payé un seul centime d'impôt en France. Alors, imaginez que c'est complètement incroyable. Parce que quand vous avez, vous, votre petit salaire, que vous essayez de vendre les deux bouts, que vous êtes imposé, et à l'inverse, vous avez Total qui fait des profits comme jamais, avec une somme qui est finalement même pas concevable, eh bien, eux ne payent aucun euro d'impôt.
Et donc, vous pensez que la crise sociale et la mobilisation dans la rue, Julie Garnier, peut amener le gouvernement à changer ses orientations, imposer une taxe sur les super-profits et peut-être augmenter le SMIC à 1 500 euros, comme vous le réclamez ?
Bien oui, parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, elle ne s'arrête pas quand on sort de l'isoloir. La démocratie, elle vit tous les jours. Parce que c'est ça, d'abord, c'est la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et le peuple, eh bien, s'il n'est pas content, si à un moment il a faim, si à un moment il n'arrive plus à se chauffer, si à un moment il n'arrive plus à se déplacer, à se soigner, à s'éduquer, etc., eh bien, il est en droit, et c'est son devoir le plus sacré même, eh bien, de dire que là, ça, il n'en peut plus, ça suffit. Et c'est justement, eh bien, l'occasion de le dire lors des marches, ou lors des grèves, ou lors, enfin voilà, c'est ça la démocratie. La démocratie, elle est vivante. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui aimeraient la mettre sous formole, la mettre dans un bocal et ne plus entendre parler une fois qu'ils sont élus. Mais non, c'est pas comme ça que les choses, elles se décident. Et donc, il faut qu'il y ait un rapport de force. Il faut que les gens disent, voilà, maintenant, ça suffit. Et si on est nombreux, de plus en plus nombreux dans la rue à dire, maintenant, il faut que les salaires augmentent, il faut que les prix soient bloqués, il faut que le partage des richesses soit effectif, eh bien oui, le gouvernement n'aura plus le choix.
Julie Garnier, conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de la France Insoumise, elle était l'invitée de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. Depuis le début de l'année, 4015 personnes ont été mises à l'abri dans le cadre de 15 opérations conduites par les services de l'État. C'est ce que déclare la préfecture de Paris. Un campement dans lequel se trouvaient 354 migrants près du canal de l'Ourcq à Paris a été évacué ce mercredi. Il s'agit de la 15e opération de ce type en 2022. Parmi ces personnes, 264 ont été prises en charge en Île-de-France et 90 en dehors de la région parisienne. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.